Bille en tête, avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
Bille en tête. Philippe Ligron et Duja.
Bonjour monsieur, l'émission Bille en tête sur la première. Connaissez-vous Vallon dans le canton de Fribourg ?
Je ne connais pas.
Non, parce que nous on est au musée romain de Vallon. Ça vous plaît pas l'histoire romaine ?
Non, pas du tout.
Pourquoi monsieur ?
Les vieux cailloux, ça m'intéresse pas.
Ah, l'air vivifiant de la campagne, Philippe. Bonjour à tous.
Salut Duja, effectivement, nous sommes à la campagne et nous sommes plus précisément dans le canton de Fribourg, à Vallon. Et pour vous donner les détails de la chose et résoudre enfin cette énigme qui vous anime, nous sommes au musée romain de Vallon. On va parler beaucoup de Rome, de la Rome antique. C'est un peu l'année de Rome, hein, de l'Antiquité. Ça va être un moment merveilleux. Et cette semaine, on va être en compagnie de gens absolument hallucinants, comme Clara Augustini, qui est archéologue et conservatrice du musée de Vallon. Mais nous allons aussi rencontrer cette semaine d'autres personnes, comme Marie-France Mélan, qui est archéologue elle aussi, mais directrice du musée romain d'Avenches. Et nous finirons avec un personnage bien connu qui est...
Juan Carlos Simonus.
Voilà, qui est centurion de la deuxième cohorte.
Jean-Charles Simon, en fait, qui nous fera l'amitié d'être là et d'incarner une sorte de patricien.
Patricien, c'est-à-dire un riche romain propriétaire de la Villa du Vallon. Et on va parler beaucoup de gastronomie cette semaine. Et si vous êtes gentil, il y aura des recettes romaines réadaptées pour vous. Et ça, c'est uniquement sur Bille en tête.
Des recettes orgiaques.
Ah, pas du tout. Hein, mais on parlera de festin romain, puisque je suis en préparation d'un festin romain au mois d'août à Avenches. Mais ça, ce sera pour plus tard.
Pourquoi on n'ose pas dire orgie ?
Ben parce que c'est toujours impressionnant de dire orgie pour certaines personnes et on a peur un peu de se retrouver avec tous les follows de la région qui vont débarquer en se disant « Youpi boum, où sont les préservatifs ?»
Mais à l'époque des Romains ?
Alors à l'époque des Romains, les orgies étaient surtout un banquet gargantuesque où on mangeait, on faisait vraiment opulence. On va regarder tout ça, on va en reparler de toute manière cette semaine. Mais bien évidemment, à la fin du repas, les dames de la maison se retiraient dans leurs appartements et étaient remplacées par d'autres femmes un peu plus compréhensives, on dira. Mais c'était pas forcément... forcément ça, et c'est ce mot orgie a une connotation sexuelle, mais ça c'est très moderne, c'est assez récent. Hein.
On va voir tout ça cette semaine dans Bille en tête, ici au musée romain de Vallon.
Bonjour.
Bonjour.
Nous cherchons madame
Clara Augustini.
C'est vous ?
Augustoni, oui, c'est moi.
Augustoni.
Augustoni, oui.
Ah. Alors, enchanté, Philippe Ligron.
Enchanté, monsieur.
Bonjour, Duja.
Bonjour, enchanté aussi.
Merci de nous accueillir, alors.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Bah, écoutez, le plaisir est partagé. Donc, cette semaine, on va parler de Rome, on va parler de gastronomie.
Oui,
je crois. C'est quoi ce musée romain ? Vous avez c'est un site archéologique assez connu, ici ?
C'est un site archéologique. Donc, le musée existe à cause de deux mosaïques, en fait. C'est le musée des mosaïques, on aurait pu l'appeler comme ça. Nous avons deux magnifiques mosaïques conservées in situ. Et puis bah, autour de ces mosaïques, on a une exposition permanente et une exposition temporaire qui maintenant parle de la table.
C'est quand même incroyable d'avoir un musée créé autour de deux mosaïques. Elles étaient si grandes que ça ?
Alors, il y en a une des deux qui est vraiment très grande. Elle mesure presque 100 mètres carrés.
100 mètres carrés ?
Presque, oui.
Ah oui, c'est pas rien quand même. Hein.
Non, c'est pas rien. C'est la plus grande actuellement conservée en Suisse.
Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Ces mosaïques, elles avaient un rôle de prestige. Elles étaient censées marquer un peu la richesse du propriétaire qui l'avait commandé.
Du patricien.
Du patricien.
Alors, certainement, une mosaïque n'orne pas n'importe quelle salle et n'importe quelle maison. Et la plus grande des deux mosaïques conservées ici à Vallon ornait le sol d'une salle de banquet. Donc, voilà, le lien aussi avec notre exposition actuelle.
Ça s'appelle Autour de la table, jusqu'en 2015.
Oui.
Février 2015
oui, oui, c'est une longue exposition. Oui.
Ça a commencé quand ?
À la fin du mois de mars 2014.
Et pour l'instant, ça se passe comment ?
Mais ça se passe bien, ça tire l'intérêt des gens. Donc on voit bien que les visiteurs ou les personnes qui ont vu, lu dans les journaux, entendu la radio, sont intéressés parce que c'est un thème qui parle, je pense, à tout le monde. Tout le monde mange. Donc ça, on est intéressé à savoir aussi ce qui se passait à l'époque romaine.
C'est aussi usage et savoir-vivre.
C'est ça, en fait. On ne parle pas forcément de ce qu'il y avait dans l'assiette, mais comment ça se passait autour de l'assiette, plutôt autour de la table.
Philippe, on est bien loin de ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, ces supputations orgiaques qu'on évoque parfois dans une forme de cliché par rapport à cette époque, si on parle d'usage et de savoir-vivre...
Il y avait des usages, mais ces usages étaient très réglementés. Il fallait, il y avait des, comment dirais-je, des sortes de principes. On recevait d'une certaine manière. On disposait les buffets de certaines manières dans la pièce qui était concernée. Il y avait aussi toute cette symbolique autour de ces mosaïques, c'est-à-dire qu'il y avait des salles où il y avait des animaux sauvages représentés qui étaient censés amener un message. Et il y avait ce protocole où on mettait aussi les gens à une certaine place. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'on retrouve des écrits comme quoi il y a même des gens qui râlent un peu parce que certaines de ces orgies, de ces banquets étaient franchement organisées avec du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on invitait, mais parfois on n'avait pas les moyens, alors on mettait un peu des choses qui n'étaient pas forcément bonnes.
Monsieur, bonjour. Billet en tête sur la première. Quelques ingrédients essentiels à la réussite d'une bonne orgie.
Il faut du monde. Il faut de l'enthousiasme, la motivation. Et de la liberté, quoi.
Ouais. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Bonne journée.
Au revoir. Billet en tête au musée romain de Vallon.
Musée de Vallon, autour de la table. Donc je le rappelle, cette semaine, on va parler beaucoup d'alimentation, on va parler beaucoup de repas, de principes, etc. Et là, on commence parce que là, il y a déjà une belle maquette d'une très grande maison. De quoi s'agit-il ? Comment ça s'appelait ces maisons, en fait ?
Alors, ça se présente comme une sorte de villa romaine. Donc c'est une grande demeure de campagne qui, ici à Vallon, s'organise en forme de L, le plan en forme de L, avec trois bâtiments distincts qui couvrent à peu près 2000 m² de surface au sol.
Et ça, c'est un bâtiment que vous avez imaginé ou ça a été construit sur des restes de ruines que vous avez pu trouver ici dans le coin?
Donc nous avons fouillé les lieux et c'est les plans que ces vestiges nous ont laissés, nous ont livrés, qui nous permet de restituer une maquette telle que vous la voyez ici au musée romain de Vallon.
Qu'est-ce qu'ils faisaient ici ces gens-là? Comment est-ce qu'ils sont arrivés ici? On peut savoir aussi les prémices en fait de l'établissement de Romains dans la région?
Alors, le propriétaire de Vallon était certainement un citoyen d'avance. Hein. Quand vous voyez cette maison, cette demeure, vous verrez tout à l'heure aussi les mosaïques, donc la richesse aussi de tout ce qui était découvert ici, nous laisse bien imaginer que c'était une personne assez importante d'avance, probablement un citoyen, qui avait une maison ici à la campagne, probablement une de ses propriétés. Donc, il ne vivait pas l'année ici, mais il l'avait vraisemblablement confiée à ce qu'on appellerait aujourd'hui un intendant, un régisseur. Et l'étude actuelle de vestiges et des découvertes nous permet d'imaginer qu'il y avait jusqu'à 100 personnes, tout âge et toute classe sociale confondue, qui pouvaient vivre ici en même temps.
Ils venaient d'où ces Romains? C'est ça que j'aimerais savoir. Ils sont établis comment? Et quand, si on se rappelle, si on se rafraîchit la mémoire au niveau historique?
Alors, c'est des occupations. Donc, il y a la ville d'Avenches qui a été créée. Il y a des gens qui sont là avant, donc substrat celtique, des Gaulois. Donc, et puis, effectivement, il y a des gens qui se sont romanisés. C'est ce que, par exemple, l'exposition temporaire montre bien, c'est que on adopte des habitudes alimentaires ou des façons de faire ici, même dans la région autour de la capitale de l'Helvétie romaine.
Ouais. Il y a toujours ces clichés entre des peuplades de celtiques ou gauloises, un peu barbares comme ça, et un raffinement romain, ou alors les choses étaient plus complexes que cela?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'était plus complexe, ouais. En tout cas, c'est plus nuancé surtout. Parce que qui est barbare et qui est pas... Vous savez que barbare, ça veut dire simplement celui qui ne parlait pas hein, comme on aurait dû, donc le grec à l'origine, et puis bien sûr après, les Romains ont utilisé aussi ce terme. Mais non, je pense qu'effectivement, c'est plus... Il faut nuancer, et c'est un peu ce que l'exposition veut montrer, justement.
On voit que cette maison, elle n'a subi aucune modification, en tout cas en termes de fortification. C'est pas, là, il y a des murs, c'est pas des fortifications qu'il y a là, non?
Non, c'est pas et des fortifications.
On a vécu quand même une longue période de paix, parce qu'on a toujours l'impression, quand on parle de cette période antique, que les Romains se tapaient dessus avec tout le monde en permanence. Il y avait quand même une prospérité qui pouvait jaillir de ces civilisations.
Oui, bien sûr. La maquette montre la situation vers le milieu du IIIe siècle, ce moment de prospérité, donc aussi bien de la capitale que de cette maison. Les deux mosaïques sont déjà en place. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu se montrer à ce moment-là. Et effectivement, il y a un moment de paix, ou comme vous dites, d'aise en fait. On sent bien que c'est le boom économique hein, aussi.
Donnez-moi, madame, s'il vous plaît.
rendez-vous au musée du Vallon avec Clara Augustoni, archéologue et conservatrice du musée du Vallon.
Vous parlez de mosaïques, donc c'est un peu le but de ce musée à l'origine, puisqu'il y avait ces deux fameuses mosaïques, donc celles de 100 mètres carrés. Il y avait une signification particulière. Déjà, qu'est-ce qu'elles représentaient et quelle était la symbolique là derrière ?
Alors, la grande mosaïque représente des scènes de chasse en amphithéâtre, ce qui nous permet, ce qui nous a suggéré plutôt l'hypothèse suivante. Le propriétaire de Vallon, comme on a dit, c'était un citoyen probablement d'Avanches. Il aurait peut-être représenté des jeux, aurait offert des jeux à ses concitoyens à Avanches et il aurait représenté ça ensuite dans son salon.
À la place de la télé, il y avait une grande mosaïque.
Si vous voulez, oui. Toute proportion gardée.
Mais on ne savait pas son nom, alors, à cette personne ?
Non, malheureusement, le nom ne nous est pas parvenu. On a eu formulé des hypothèses, donc, mais voilà. Nous sommes encore... Le site est encore en étude, hein, donc, en fait.
Et offrir des jeux à la population, c'était le must de l'époque ?
C'est ce qui pouvait se passer, effectivement. Les jeux sont souvent offerts par des mécènes, donc, à l'époque. Et à Rome, c'est l'empereur qui invite, ou bien des gens qui ont vraiment les moyens. Parfois, c'est aussi pour soutenir la campagne politique, hein, donc... effectivement, donc, le propriétaire de Vallon, avait peut-être offert ses jeux à l'amphithéâtre d'Avanches. Il les aurait représentés dans la grande mosaïque. Et puis la petite mosaïque, on la nomme la mosaïque dite de Bacchus et d'Ariane, d'après le médaillon central, qui représente en fait le moment où Ariane se réveille sur l'île de Naxos. Et puis il y a Bacchus, disons, qui va l'accueillir pour en faire son épouse. Donc.
Dionysos ou Bacchus ?
C'est Dionysos pour les Grecs, Bacchus pour les Romains.
D'accord.
Dionysos qui a créé le vin autour d'un assemblage de différentes branches d'arbustes, hein, je crois. C'est comme ça qu'il a créé la vigne. Hein. Il y a toute une symbolique autour de ça. Et c'est très intéressant. Il y a énormément, je crois que la spiritualité, la religion, la théologie prenaient énormément sur la vie des Romains. Tout était réglé en fonction de ça, non ?
Il y a beaucoup de ces aspects-là qui sont très importants au quotidien. Vallon, juste parce que, voilà, c'est bien aussi de préciser, n'a pas seulement deux mosaïques extraordinaires, mais là aussi un ensemble de divinités, le larère de la maison, donc la chapelle domestique, qui a été livrée, abîmée par la chaleur, puisque le toit a brûlé dans un terrible incendie, vers la fin du 3e, de début du 4e siècle. Mais les divinités ne sont pas revenues, et c'est un des ensembles donc des larères les plus importants qui existent.
De quoi vivaient ces riches propriétaires, comme ce citoyen ? Parce que là, on voit, il a un grand jardin, ok, très bien.
Description de Philippe Pigron.
On voit une maison assez ouverte, hein, qui pourrait être une maison moderne, hein, assez contemporaine, avec un jardin un peu à la française au milieu. On voit un potager sur le côté. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous retrouverez toutes les photos sur la page Facebook de l'émission. Mais là, on voit quand même que c'est une production plus ou moins d'amusement. Il y avait quand même une grosse production derrière au niveau agricole. Est-ce que c'était la chasse qui permettait de faire vivre ses propriétaires ? Pour avoir une maison comme ça, il doit avoir des sacrés moyens quand même.
Oui, alors tout à fait. Les jardins qui sont représentés ici, ce sont en partie des hypothèses. Le jardin que vous avez décrit comme un peu un jardin à la française, en fait, pourrait être redessiné sur cette maquette, puisque les fouilles récentes ont permis de découvrir des aménagements vraisemblablement de haies, en méandre, donc en zigzag comme ça. Et au sud, la partie qui est représentée comme un magnifique potager inspiré de maisons de Pompéi, en fait, on n'a pas beaucoup d'informations. Pour cette époque, les fouilles récentes ont montré toute une série d'aménagements postérieurs qui ont oblitéré en partie du moins les aménagements de ce jardin.
On voit des petits personnages là qui se baladent autour du jardin ou de la piscine en toge. Ils étaient vraiment habillés comme ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils vaquaient à quelles occupations ? C'était des gens qui travaillaient beaucoup, on imagine, ou alors qu'ils faisaient beaucoup travailler les autres.
Les deux choses, je dirais. Alors, le propriétaire de Vallon avait toutes ces ailes que vous indiquez, la partie nord, autour de la grande mosaïque, qui était vraisemblablement destinée à accueillir des invités. Donc, c'est des chambres ou des logements pour des amis ou des connaissances du maître des lieux, qui pouvaient donc venir loger ici, manger dans la grande salle ornée de la mosaïque de la Vénatio. Mais il y a certainement aussi des domestiques. Nous avons des serviteurs qui devaient vraisemblablement loger dans la partie au sud, l'aile qui est réservée aux domestiques, aux serviteurs, parmi lesquels il y avait certainement des esclaves, puisqu'ici à Vallon, nous avons découvert également des entraves. Donc c'est typique pour indiquer la présence d'esclaves.
D'esclaves qui venaient d'où ?
on n'a pas de traces de ce genre d'informations. C'est certainement des esclaves. Ça dépend un peu aussi de la tâche qui est attribuée. Hein. On sait par exemple que les maîtres, les enseignants, c'est souvent des Grecs. Certaines professions aussi sont souvent... les noms qui nous sont parvenus, surtout quand les esclaves ont été affranchis, après on a parfois aussi des noms qui nous parviennent. Alors grâce à ça, on peut avoir quelques informations, quelques indices sur leur origine.
On voit que cette bâtisse est absolument énorme, il y a des arcades, est-ce qu'il y avait des portes, des fenêtres? Ça devait être le royaume des courants d'air, ces maisons-là.
Je ne sais pas si c'était le royaume des courants d'air, mais effectivement, il y avait des portes et des fenêtres. Nous avons eu la chance de trouver un pan de mur qui est tombé avec une ouverture de fenêtre, ce qui permet d'avoir des précisions, des indications assez précises pour cette maquette.
Mais je vous coupe, il y avait déjà des vitres?
On a découvert des verres à vitres, oui, tout à fait, ça existe. Et vous avez, justement, pour avoir une indication aussi des dimensions, parce que la maquette reproduit les lieux à un cinquantième, mais c'est toujours difficile hein, s'imaginer ça en vrai, et bien l'arcade de portique que vous avez en face de vous, reconstituée à partir notamment de fragments de fresques, donc ce que ce portique était peint à cet endroit, et bien, nous donne la troisième dimension. Donc là, vous imaginez un deuxième niveau, un deuxième étage par-dessus, c'est là qu'on se rend compte, c'est vraiment très grand.
On voit aussi qu'ils avaient des tables de ping-pong, non?
Non, pas ça? Non, ce sont des fontaines, mais ouais. Voilà, oui.
Les cuisines étaient où?
La cuisine était ici, c'est une immense cuisine dans la partie sud des bâtiments. L'aile destinée, comme je disais tout à l'heure, à accueillir les domestiques, les serviteurs. Et cette cuisine est immense, elle mesure presque aussi 100 mètres carrés. Je dis aussi parce que c'est aussi grand que la grande mosaïque.
Presque aussi grand que chez toi, Philippe?
Oui, mais toute la maison confondue. Alors, cette cuisine, elle était organisée comment? Il y avait un feu central, il y avait déjà de nombreux outils, j'imagine.
Alors, ce que nous avons découvert, c'est effectivement le foyer central qui nous permet d'identifier la pièce comme étant une cuisine. Et puis, parmi le mobilier, beaucoup de fragments de céramique. C'est souvent la céramique, celle qui se conserve bien, qui nous permettent de dire aussi qu'il y avait des marmites, des casseroles, des mortiers, des terrines, des bols, enfin, toute une série d'ustensiles, d'objets qui étaient utilisés à l'époque romaine pour faire de la cuisine.
Parce qu'on faisait tout, on grillait, on bouillait, on cuisait. C'était quoi exactement? Comment étaient les principes de l'époque, Philippe?
Alors, il y avait des cuissons qui étaient sensiblement les mêmes que celles qu'on pourrait avoir maintenant. Bien sûr, on ne cuisait pas dans des combistimeurs à l'époque.
Ah non?
Mais on avait des cuissons qui étaient quand même assez relatives. Et je dis ça parce que je suis en train de préparer ce fameux repas romain, là, ce banquet romain au mois d'août à Avenches. Et on est assez surpris avec les collègues avec qui on travaille parce que parfois on se dit, tiens, ils faisaient ça comme nous. Mais en fait, c'est nous qui faisons ça comme eux. Et donc, il y a pas mal de similitudes. Alors, bien sûr, il y a des cuissons qu'on ne pouvait pas faire à cette époque-là, les cuissons sous vide et tout ça. Mais on retrouve quand même certaines similitudes. Ce qui est assez amusant, c'est de retrouver qu'il y a des principes au Moyen-Âge qui étaient utilisés déjà dans l'Antiquité. Donc, les gens du Moyen-Âge ont repris des techniques de cuisson, par exemple.
Ils ont repris qu'à une époque, ça s'était perdu dans la nature.
Entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, il y a eu vraiment, en tout cas au niveau culinaire, il y a eu une fracture fondamentale. J'ai l'impression qu'on a tout perdu, mais il y avait quand même des choses qui sont revenues. Mais à mon avis, c'est plus la logique qu'une passation de savoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tellement logiques. Les techniques de conservation, tout le monde de la cuisine tournait autour de la conservation des aliments. C'est-à-dire qu'on faisait du fromage, on faisait de la charcuterie, on faisait des marinades, on faisait ces salaisons, on faisait tout ça, mais c'était pas parce que au début on voulait égayer le quotidien, c'était juste parce qu'il fallait conserver les aliments. Ça a été toujours le gros problème fondamental, et c'est assez curieux de dire ça, parce que ce que je vais vous dire peut choquer, mais c'est toujours le problème à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la cuisine évolue aussi fondamentalement sur le principe qu'il faut trouver des nouvelles techniques de conservation, même si maintenant on a les frigos, les congélateurs et tout ça.
Bonjour madame, c'est l'émission Billes en tête sur la première. Connaissez-vous la commune de Vallon dans la Broye fribourgeoise?
Vallon dans la Broye, je vois. Et pourquoi donc?
Parce que nous y sommes toute la semaine avec l'émission Billes en tête.
Ah.
Nous parlerons du mode d'alimentation des Romains, de leurs fameuses orgies, de leurs recettes complètes.
Orgies, vous croyez?
Oui.
Attends, ça m'étonne, les Romains, j'étais sérieux.
Le fossoyeur se désespère et le joueur de limonaire me dit en me jouant son air que je suis fou. Dans le l'effroi, les cloches sonnent et me répètent que je déconne. Mais moi, je n'y suis pour personne, je m'en fous. Avant tout, je veux tout de toi. Oh, je veux tout. Les politiciens font leur cirque aux mères éplorées, pathétiques, et les élus sous narcotiques dorment debout. Ils disent que c'est une folie, qu'il vaudrait mieux que je t'oublie et boire la coupe jusqu'à la lie, jusqu'au dégoût. Mais avant tout, oui, je veux tout de toi. Oh, je veux tout. Mais qui donc a déjà connu un tel amour impossible? Les autres filles, je n'en veux plus, je n'ai plus que toi pour cible. Ouais, je retourne chez la dame de pique, elle me console, je lui explique que sans toi ma vie se complique, je l'avoue. Elle est si bonne avec moi, il n'y a rien qu'elle ne voit pas, elle sait que je manque de toi, voilà tout. Et qu'avant tout, oui, je veux tout de toi. Oh, je veux tout. Sous leur masque de carnaval, tes amis me font la morale, et moi, je leur ai fait du mal, je l'avoue. Je l'ai fait parce qu'ils ont menti, qu'ils t'ont mené loin d'ici, que le temps est notre ennemi, et surtout, avant tout, oui, je veux tout de toi, oh, je veux tout.
Rendez-vous au Musée du Vallon avec Clara Augustoni, archéologue et conservatrice du Musée du Vallon. Revenons au quotidien, ça se passait comment pour ce monsieur-là qui était propriétaire de cette villa? Son quotidien c'était quoi? Il se levait, il déjeunait? Ou alors c'était complètement différent d'aujourd'hui?
Alors, la journée à l'époque romaine était rythmée plus ou moins de la même façon que la nôtre, dans le sens qu'il y a en principe, point de vue de repas, donc il y en a en principe trois. On se lève, on prend ce qu'on appelle aujourd'hui le petit déjeuner, le yentaculum, entre 8 et 9 heures du matin. Enfin, ça dépend toujours.
Ça va, c'est pas trop tôt encore.
Ça va, mais ça dépend toujours de qui on parle et où, à quelle époque, mais surtout à quelle saison aussi. Hein. Vous savez que les journées étaient rythmées par le lever du soleil et le coucher du soleil, donc certainement aussi. Le petit déjeuner, le yentaculum, était quelque chose de très simple, quelques fruits, un verre d'eau, donc c'est souvent...
Un peu de fromage aussi, je crois.
Parfois un petit peu de fromage aussi.
Il y a aussi une différence fondamentale avec notre époque, c'est que maintenant, nous, on se lève, on déjeune. Et comme disait très justement madame, on se levait à l'époque, on commençait à mettre un peu cette machine en route, hein, et on déjeunait une demi-heure, trois quarts d'heure après, une heure, je ne sais pas, mais on ne déjeunait pas tout de suite avant, on attendait d'avoir faim. Et ça, c'est très important. Faites l'expérience même maintenant, c'est très intéressant de se mettre à déjeuner quand on a faim et pas forcément se gaver sans avoir faim le matin au réveil.
C'est exactement ce que je fais, Philippe. C'est pour ça que je déjeune vers les 12-13 heures. Je prends mon dîner vers 16 heures.
Ok, bah très bien. Donc vous disiez petit déjeuner frugal, hein, et après le deuxième repas, c'était...
C'est un peu l'heure donc du petit déjeuner de Dujat.
Il s'appelait le Dujatus. Hein,
ah oui, tout à fait, voilà. Alors c'est le prandium en latin, effectivement on le prend vers le milieu de la journée. Alors là c'est souvent les restes de la veille.
Tiens donc, même chez les patriciens.
Oui, les gens, enfin, j'étais jamais chez un patricien, mais certainement si vous le dites... on sait qu'en fait, on pouvait emporter quand on était invité le soir. Enfin, c'est ce qu'on on dirait le souper, mais ce n'est pas tout à fait ça, puisque justement, ils prennent ce repas vers le repas principal, qui est la quène en latin, donc l'équivalent de notre souper, à partir de 2-4 heures l'après-midi. Donc,
et ça, c'est le troisième repas?
C'est le troisième repas.
Ah, il y en a un le matin, un à midi et un vers 4 heures.
Voilà, donc celui de midi, c'est, je dirais, presque facultatif. Donc, c'est souvent un petit encas. Nous savons qu'on pouvait le prendre en ville, hein, vous savez, ils avaient ces échoppes, hein, c'est ces endroits où on pouvait prendre, grignoter quelque chose. Ceux qui restaient à la maison et qui avaient faim, parce qu'on a des témoignages de gens qui disent, ouais, Sénèque, par exemple, dit, je ne me lave même pas les mains, je ne m'assieds même pas, je mange quelque chose un peu comme ça sur le pouce, quoi. Alors là, ça peut être des fruits, des restes de la veille, comme disait. Et puis sinon, ben, effectivement, le repas principal se passe plus tard, vers les 2, 3, 4 heures l'après-midi. Et ça continue à peu près jusqu'à la tombée de la nuit. Donc.
Et là, on ne mange plus rien de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 8, 9 heures le lendemain ?
Je pense qu'en fait, on mange pas entre 3 et 4 heures l'après-midi.
Mais oui, il n'y avait pas de télé à l'époque, donc les gens ne pouvaient pas grignoter des horreurs devant la télé, Philippe.
Oui, puis c'était pas plus mal. Mais j'entends déjà, on déjeunait quand même un peu plus tôt. C'est pas 8, 9 heures, c'est plutôt 7, 8 heures. Et puis, on mangeait tard, on mangeait gras. Il ne faut pas oublier que cette quenne dont parlait madame, c'est quand même un repas qui est quand même assez costaud. En tout cas, il y a des traces de banquets, c'est juste.
On ne mangeait pas des banquets tous les soirs non plus, non, Philippe. On n'est pas chez les grands, là.
Non, mais on se tapait la cloche, quand même, comme on pourrait dire maintenant. Et de ce fait, je pense qu'on était calé pour la nuit, ça le faisait quand même.
On pouvait manger quoi ?
Alors, qu'est-ce qu'on pouvait manger ? Alors, il y avait beaucoup de choses à cette époque-là, hein, puisqu'on avait des aliments favoris déjà, mais on avait des repas. Alors, il y a des repas absolument hallucinants, hein, puisqu'on trouve des traces comme quoi ils avaient des hors-d'œuvre. Trois entrées, ils pouvaient manger deux rôtis et un dessert, mais après, il y avait des banquets qui étaient beaucoup plus conséquents. Il y avait aussi des aliments favoris, des aliments qu'on aimait manger, comme ces fameux foie gras égyptiens, qui étaient déjà réputés à l'époque. Hein. On avait les foie gras d'Égypte, on avait les saumures d'Espagne, on avait les charcuteries qui venaient de Gaule. On avait
De Gaulle. On mangeait avec de la sauce.
J'étais sûr qu'il allait me dire ça. Il y avait les fruits qui venaient d'Afrique et du Proche-Orient. Il y avait les épices exotiques, les vins capiteux. Enfin, il y avait toute une sorte de choses qui faisaient que cette gastronomie était quand même assez riche. Il faut quand même aussi savoir que les Romains avaient énormément besoin des pays, en tout cas des civilisations qui les entouraient. Puisqu'on dit,
c'est ce que je me disais justement. Hein. On parlait de tous ces mecs qui venaient de pays différents. Peu de choses de Rome, alors on retrouve de nouveau cette idée italienne de tout piquer aux autres et de faire croire que c'est notre gastronomie. On le sait avec les pâtes, par exemple. Et même les pizzas, Philippe.
Et même les pizzas,
on sait que les pizzas, c'est pas italien non plus.
Les pizzas sont originaires, d'après moi, du Soudan. Ah. Mais voilà. Et puis, puisqu'on parle des pâtes, et ben, il y a beaucoup de gens prêts à Marco Polo l'arrivée des pâtes.
Oui, il a raconté beaucoup de bêtises aussi.
C'est-à-dire que Marco Polo racontait pas tellement des bêtises, c'est surtout qu'il s'appropriait beaucoup de découvertes d'autres personnes. Mais je pense que Lucullus, déjà, qui était ce général romain que vous connaissez certainement, Lucullus était un passionné de gastronomie. Il était fou de ça. Hein. Et il était le chef de l'armée. D'Orient et il a ramené de ce fait beaucoup de choses. On lui prête en tout cas beaucoup de découvertes gastronomiques par rapport au fait qu'il était passionné de ça. Et du reste, j'en veux pour preuve qu'un soir, il avait commandé un énorme banquet à son cocus, hein, qui était son chef, et son chef de cuisine, son cocus, lui dit « Mais maître, il n'y a personne ce soir, vous êtes tout seul, vous recevez personne. » Et il a dit « Si, je reçois Lucullus ». Donc c'était quand même quelqu'un qui était assez passionné. Après, il y a eu Apicus, il y a eu d'autres gens, mais enfin, j'entends, c'est quand même... Voilà, il y a eu tous ces trucs qui sont arrivés d'Asie par cette découverte et par cette soif de la connaissance.
On verra demain s'il y avait quand même des spécialités typiquement romaines, toujours ici au Musée romain de Vallon, dans le cadre de Billes en tête. Merci Philippe, merci Clara Augustoni. On vous retrouve demain, 9h30, 10h.
Merci.
Et bonne journée à tous, ciao.
Ave.
Ave.
Billes en tête, avec le Grand Hôtel des Races, 3 étoiles et sa terrasse panoramique, grandhotelrace.ch.
La première, il est 10h.